Chapitre 15. Merton ne triomphait pas de l'affreuse déception qu'il avait éprouvée à Londres. La misère était venue l'atteindre sans que les préoccupations personnelles eussent détourné son esprit de la perte de ses espérances. Mais s'il bravait la faim, qui le torturait, pour ne penser qu'à ses illusions détruites, le corps se vengeait de cet oubli en aigrissant l'âme du stoïque. Son caractère de plus en plus morose avait perdu sans retour la faculté de réagir contre le désespoir et de sortir du cercle fatal où cette idée fixe enfermait sa pensée. Il existait autrefois en Italie un supplice horrible dont la victime ne se doutait pas tout d'abord. Détenu dans une pièce commode et spacieuse où le luxe même lui était prodigué, le malheureux condamné ne songeait pas à se plaindre d'un emprisonnement qui n'avait rien de cruel. Mais bientôt les murailles se rapprochaient par un mouvement insensible et rétrécissaient l'espace qui lui était réservé. Chaque jour, cet espace était moindre. L'air manquait, le mouvement devenait impossible. Les murs pressaient l'infortuné et l'écrasaient enfin entre leurs pierres sanglantes. Ainsi, chaque jour, la pensée de Burton l'oppressait davantage et, resserrant son étreinte, se dressait entre lui et la clarté des cieux, empêchait les bruits de la terre de frapper son oreille et le son des voix amies d'arriver à son cœur. Certes, l'usage de l'opium entrait pour beaucoup dans cet état maladif où s'éteignait Burton. Mais avant de blâmer trop sévèrement l'infortuné qui s'enivre, essayez de la vie qu'il traîne, sans espoir et sans pain. Essayez, non seulement de supporter sa misère, mais encore de vivre entouré de malheureux désespérés comme vous, et comme vous, succombant sous la morsure d'une faim toujours inassouvie. Et dites si alors vous n'irez pas chercher l'oubli jusque dans l'ivresse dont la pensée vous révolte aujourd'hui. On achète bien cher, il est vrai, cet oubli d'un instant, et les malheureux qui le demandent à l'opium y laissent en échange leur force et leur raison. Leurs jours languissent au milieu de réalités qui ne sont pour eux que des rêves. Leurs nuits ont des songes où l'horrible acquiert toute la puissance de la réalité. Leur vie s'éteint, leur corps tremble et chancelle. Un commencement de folie vient troubler leur cerveau, et, chose odieuse, ils ont conscience de cette folie croissante. Mais leur avez-vous enseigné à prévoir les conséquences d'un entraînement quelconque ? Burton n'avait donc plus qu'une pensée, qu'une idée fixe qui l'absorbait tout entier. Pourquoi cette distance entre les riches et les pauvres, entre les enfants d'un même père ? Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils soient ainsi divisés. Qui donc a placé un abîme entre leurs intérêts ? Et poursuivant toujours la solution du mystérieux problème, il ne lui restait plus, quand la raison avait fui son esprit fatigué, qu'un sentiment clair et distinct, celui de sa haine pour les uns, de sa profonde sympathie pour les autres. Mais à quoi pouvait le conduire son ardente charité pour les malheureux dont il partageait les douleurs? Nulle éducation n'avait éclairé son âme, et l'amour lui-même ne peut rien sans la science. Le peuple de nos jours naît à la vie sociale. En se levant, il nous irrite, nous terrifie. Nous devenons ses ennemis parce que nous avons peur, nous le combattons. Et dans le triste moment de notre douloureux triomphe, nous ne comprenons pas le reproche que son regard nous adresse. Qui l'a fait tel qu'alors nous le voyons apparaître? Un monstre puissant, n'ayant en lui nul moyen d'arriver au bonheur, et par conséquent, nul moyen de rester calme dans sa force. Burton devint chartiste communiste, un de ces insensés qu'on traite de visionnaire. Mais c'est quelque chose que cette folie d'utopiste. Cela prouve au moins une âme chez cet homme qui, regardant au loin, s'épuise à rêver un bien-être dont il ne jouira pas. Il avait en outre une sorte d'habileté pratique assez rare chez les rêveurs et qui le rendait fort utile aux associations dont il faisait partie. Sa parole, d'une éloquence à la fois âpre et naïve, et qui naissait du trop-plein de son cœur, impressionnait vivement son auditoire, composé d'hommes simples, heureux de retrouver dans ses discours l'expression de leurs souffrances et de leurs désirs. Esprit organisateur, il savait prendre les mesures nécessaires à la société qu'il dirigeait, et portait jusque dans les moindres détails une précision qui s'alliait chez lui au talent de grouper les hommes et de les conduire. Mais ce qui surtout lui donnait une influence réelle parmi ceux qui l'approchaient, c'était le désintéressement absolu qu'il mettait à servir la cause dont il s'était fait le champion, et l'oubli complet où il était de lui-même et de sa propre misère. Quelque temps avant l'époque où nous en sommes de cette histoire, la fabrique de Manchester avait reçu de l'extérieur une commande considérable de tissus communs qu'il lui fallait produire, non seulement à un bref délai, mais encore au plus bas prix possible. La même demande ayant été faite à certaines manufactures du continent, qui, ne subissant alors ni renchérissement des denrées ni impôts sur leurs machines, pouvaient lutter avec avantage et fournir les objets demandés à un meilleur marché que le Lancashire. Il s'agissait donc de l'emporter sur la fabrication étrangère, et pour ne pas se laisser battre, il fallait nécessairement payer le coton moins cher et diminuer le prix de la main-d'œuvre, sauf à relever plus tard le taux des salaires provisoirement abaissé et même à faire profiter les ouvriers des bénéfices que procurerait un jour ce nouveau débouché. Mais les patrons ne jugèrent pas à propos de faire connaître les circonstances où ils étaient placés et d'expliquer leurs motifs. Ils étaient les maîtres, et suivant eux, avaient le droit de régler sans contrôle le prix qu'ils voulaient offrir du travail, prix qui, dans l'état actuel des choses, leur paraissait devoir être facilement accepté par des gens que le manque d'ouvrage condamnait aux privations les plus cruelles. Malheureusement, les ouvriers n'envisageaient pas la question du même point de vue. Rien à leurs yeux n'ébranlait la fortune des patrons, qui, en dépit de la crise commerciale, continuaient de vivre à l'aise dans leurs vastes hôtels. Tout à coup surgissait au milieu de ce chômage, désastreux seulement pour la classe ouvrière, une commande considérable dont l'importance réelle s'exagérait encore. Il fallait que la livraison fût prompte, on réclamait des bras, et c'est en pareille circonstance que, profitant de la détresse de l'ouvrier, on parlait d'abaisser un salaire déjà insuffisant. Honte à ces hommes qui osaient spéculer sur la misère et sur la faim. Mais les ouvriers, à leur tour, se riraient du patron et sauraient mourir tout à fait plutôt que d'accepter ces conditions odieuses. C'était bien assez d'être pauvres, sans que le travail de leurs mains décharnées et la sueur de leur front pâli vinssent encore grossir la fortune d'un maître qui les exploitait sans pitié. Non, ces bras qu'on réclamait refuseraient d'agir et montreraient ainsi leur puissance. Le mépris et la haine qui existaient entre fabricants et ouvriers s'accrurent encore de cette défiance mutuelle, pendant que les uns, se renfermant toujours dans leur réserve hautaine, ne consentaient pas à dire que, même en diminuant le prix de la main-d'œuvre, ils sacrifiaient encore une partie de leurs capitaux et qu'il s'agissait pour tous de remporter une victoire décisive sur les fabriques du continent, les autres, silencieux et farouches, se croisaient les bras devant un salaire avili et bravaient la mort plutôt que d'accepter des offres qu'ils trouvaient dérisoires. Il y eut donc grève à Manchester, comme il arrive toujours en pareille occasion. Les associations des autres métiers vinrent en aide aux tisseurs et les soutinrent dans la lutte qu'ils avaient engagée. Glasgow, Nottingham et d'autres villes industrielles envoyèrent des délégués pour les féliciter de leur résistance. Un comité s'organisa et Burton fit partie des élus qui composèrent le bureau. De leur côté, les patrons ne restaient pas inactifs. Ils avaient fait afficher leurs demandes et leurs offres, auxquelles les ouvriers avaient répondu par l'exposé de leurs griefs, placardés sur les murs en caractères deux fois plus gros que l'avis qui leur était adressé. Le temps passait. Les chefs des maisons qui avaient reçu la commande étrangère voyaient avec inquiétude approcher l'époque où leurs engagements devraient être remplis. Ils se réunissaient chaque jour pour conférer entre eux de la gravité des circonstances, et tout en déplorant l'obstination des ouvriers qui les mettaient dans la nécessité de manquer à leurs paroles, ils n'en persistaient pas moins dans la résolution qu'ils avaient prise de ne rien céder à la force. Plier aujourd'hui, c'était plier désormais devant toutes les conditions que voudraient leur imposer les travailleurs, et nul ne pouvait y consentir. Parmi les défenseurs les plus opiniâtres des droits et privilèges que donne le capital, se plaçaient, au premier rang, les deux messieurs Carson. Il n'y a pas de fanatique plus zélé qu'un nouveau converti, pas de maître plus cruel que celui qui naguère était encore esclave. Et pour le riche fabricant, autrefois mince employé dans une manufacture, il suffisait que les patrons eussent parlé pour que les ouvriers dussent être satisfaits. Quant à son fils, qui ne se donnait pas la peine de réfléchir au fond même de la question, s'il appuyait chaudement le parti de la résistance, c'était par caractère. Il était brave, et l'idée du péril l'attirait d'autant plus que certains esprits timides essayaient de le calmer en lui montrant le danger que son opiniâtreté pouvait lui faire courir. Tandis que ces conférences avaient lieu de part et d'autre à Manchester, les pauvres tisseurs des frontières du Lancashire et des comtés voisins, dont la misère était au comble, ayant appris qu'on manquait d'ouvriers dans la grande ville, quittaient leur masure pour venir chercher l'ouvrage qu'ils n'avaient pas chez eux. Les pieds meurtris, le corps brisé, l'estomac vide, ils arrivaient et se glissaient furtivement dans la cité avant l'heure où la lumière va paraître, ou bien au soir quand la nuit les protégeait de son ombre. C'est à dater de ce jour que commencèrent les torts des ouvriers en grève. Jusque-là, ce pouvait être une erreur, un manque de jugement, que de refuser de travailler au prix qu'on leur offrait. Mais il est permis de se tromper. Ce qui dépassait leurs droits et constituait leur crime, c'était d'imposer à d'autres les conditions qu'ils s'étaient faites et d'employer la force pour arriver à ce but. Détestant l'oppression quand elle pesait sur eux, pourquoi voulaient-ils donc opprimer à leur tour? C'est qu'une fois poussés à bout, les hommes ont perdu toute raison. Ayons alors pour les juger un peu de cette miséricorde avec laquelle celui que nous aimons tous parlait de ces bourreaux mêmes, car ils ne savent ce qu'ils font. En dépit des efforts de la police, en dépit des magistrats de la prison, les tisseurs étrangers étaient guettés à l'arrivée, battus et laissés pour morts sur la route. En vain dispersait-on le moindre rassemblement qui se formait dans la ville. Au premier signal, chacun partait de son côté, mais pour rejoindre ses camarades à 1 mille des faubourgs. Et qui ne sait la puissance de l'association? Les choses duraient ainsi depuis trop longtemps déjà, lorsque les ouvriers, pensant avoir suffisamment établi leur puissance, rédigèrent une note aussi respectueuse dans son langage que ferme dans son esprit, où il était demandé qu'une députation composée de leurs élus fût admise au milieu des patrons assemblés, afin de s'entendre avec eux sur les conditions auxquelles le travail devait reprendre. Les fabricants, dans leur désir de voir finir la grève, acceptèrent cette demande, quelle que fût d'ailleurs la résolution à laquelle ils devaient s'arrêter. Quelques-uns parmi les plus âgés, à qui l'expérience avait enseigné la pitié, voulaient qu'on fît des concessions aux malheureux tisseurs, dont la misère était navrante. Mais les années avaient au contraire endurci quelques autres, et les plus jeunes continuaient à se montrer inflexibles. À la tête de ces derniers était Henry Carson, qui s'était fait le champion du parti de la résistance. Mais, ainsi qu'il arrive aux natures énergiques, son activité grandissait en raison des obstacles qu'il rencontrait sur sa route. Et malgré toute la correspondance dont il était chargé, malgré les enquêtes nombreuses qu'il avait à faire relativement aux violences dont les tisseurs étrangers étaient victimes, il trouvait encore le temps de poursuivre Mary Burton et de s'attacher à ses pas. La pauvre enfant prenait l'existence en dégoût. Les reproches d'Henry avaient succédé aux promesses, et les menaces accompagnaient souvent les reproches. Elle serait à lui, disait-il, qu'elle le voulût ou non, et poussant jusqu'à l'insulte l'indifférence qu'il montrait pour sa réputation, il la compromettait ouvertement, sans nul souci du chagrin qu'elle paraissait en ressentir. Et Jem ne revenait pas. Will, qui était toujours chez les uns ou chez les autres, faisant partout de nouveaux amis, lui en donnait des nouvelles. Mais que fallait-il penser? Quelques paroles avaient-elles suffi pour anéantir à jamais son bonheur? Et parfois, dans son impatience, elle avait besoin de toute sa force pour ne pas aller trouver Jem et lui demander d'accepter l'amour qui remplissait son âme. Elle regrettait alors d'avoir consulté Marguerite et attribuait à l'influence que cette dernière avait sur son esprit l'effet d'une réserve toute féminine qui l'empêchait d'obéir à l'entraînement de son cœur. Pourtant, l'arrivée du neveu d'Alice avait fait naître chez Mary un nouvel intérêt qui l'eût vivement préoccupée dans toute autre circonstance. Il était évident pour elle que le joyeux marin, au caractère aventureux, à la parole vive et bruyante, s'était profondément épris de Marguerite, si timide et si douce. L'aveugle avait-elle conscience de cet amour? Mary se le demandait souvent, mais en l'observant mieux, elle crut voir le pâle visage de Marguerite se colorer faiblement sous le regard du marin. Sa parole était moins précise, et sa voix plus émue. Ses yeux, dont la cécité n'avait pas altéré la transparence, se voilaient en tremblant sous ses paupières abaissées. « Elle ne le voit pas, » se disait Mary, « mais elle sent bien qu'il l'aime, et son cœur répond à celui de Will. » C'était la voix angélique de la jeune fille qui avait éveillé l'amour chez l'insouciant jeune homme. Cette voix si pure qui l'avait jetée dans une profonde extase, et sans éprouver les rougeurs subites, sans connaître les frémissements et les soupirs qui n'étaient pas dans sa nature, il n'osait pas avouer qu'il l'aimait, car il lui semblait que Marguerite, dont la voix céleste vibrait toujours à son oreille, appartenait à un monde supérieur, que jamais il ne pourrait atteindre. Mais aussi, que d'attention pour le vieux Job, et que de moyens employés pour se le rendre favorable. Ce n'était pas assez du poisson volant qu'il avait été chercher à Liverpool. Dans son désir de plaire au vieux fileur, il avait joint à l'Exocétus les trésors les plus précieux qu'il eût rapportés d'outre-mer. Il était venu les offrir, et avait saisi cette occasion de rester auprès de Marguerite jusqu'au moment où sa conscience lui avait reproché d'oublier sa vieille tante. Quant à Jem, il cherchait Mr. Clarkson et l'attendait vainement. Il avait pendant 4 jours stationné près de sa demeure, sans être parvenu à le saisir au passage. Lorsqu'enfin, vers midi, comme il traversait l'emplacement que devait plus tard occuper des constructions projetées, il rencontra le gentleman seul avec lui dans cet endroit désert. Une palissade élevée, garnie de clous hérissés de pointes de fer, séparait la rue future d'un vaste jardin qu'elle entourait de toutes parts et que longeait un sentier. La voie fangeuse, impraticable aux piétons, aussi bien qu'aux voitures, était bordée de l'autre côté par une muraille en briques. Un champ venait ensuite, où se trouvait une scierie et l'atelier d'un menuisier. En voyant ce jeune homme à la tournure élégante, qui s'avançait vers lui d'un pas rapide, Jem sentit battre son cœur avec violence. C'était donc là celui que Mary aimait. Quoi d'étonnant, pensa le pauvre artisan. Il est si beau, si bien mis. Et que suis-je à côté d'un gentleman? Mais, étouffant bientôt la douleur que lui causait l'apparente supériorité de son rival, et trouvant au fond de sa conscience qu'après tout, le mérite n'est pas dans la coupe d'un habit ou la blancheur des mains, il aborda franchement cet homme, dont l'extérieur contrastait si vivement avec le sien. « Puis-je vous parler, monsieur ?» lui dit-il avec autant de fermeté que de respect. « Certainement, » répondit le gentleman, et voyant que le forgeron ne se pressait pas d'user de la permission, « Seulement, dépêchez-vous, » ajouta-t-il, « car je suis très pressé. » Jem, qui aurait voulu chercher ses paroles, comprit qu'il n'en avait pas le temps, et se hâta d'en venir au fait. « Vous fréquentez, » reprit-il d'une voix tremblante, « une jeune fille qui s'appelle Mary Burton. » Ce fut Henry qui cette fois fit attendre sa réponse. Une singulière idée lui traversait l'esprit. « Est-ce que par hasard, » pensait-il, « cet ouvrier serait l'amant de la jolie fille? Est-ce qu'il serait la cause des refus obstinés de la cruelle ?» Chose étrange, ce soupçon le mordait au cœur. Il toisa Jem du regard. Un artisan grossier, mal vêtu, vigoureusement bâti, mais emprunté dans sa force. Allons donc. Il se rappela le dernier coup d'œil qu'il avait jeté sur la glace de sa chambre et décida que pas une femme ne pouvait préférer ce noir cyclope à sa gracieuse personne, quand surtout il se donnait la peine de courtiser la belle. Et pourtant, il détestait ce garçon et mourait d'envie de le battre. Le changement de conduite de Mary à son égard était inexplicable. Peut-être allait-il pouvoir apprendre ce que depuis si longtemps il désirait savoir. « Mary Burton, attendez, » répondit-il enfin. « Ah, j'y suis, une insigne coquette, mais une ravissante créature. C'est Mary Burton que vous l'appelez. » Jem se mordit les lèvres. Était-ce de son idole que l'on parlait ainsi? Elle, une coquette. Il n'en voulait rien croire. « C'est une honnête fille, monsieur, quoique un peu fière de sa beauté, » répliqua-t-il. « Mais c'est bien naturel, et puis son père, n'ayant pas d'autre enfant. Eh bien, mon brave garçon, où voulez-vous en venir ? Il était inutile de m'arrêter pour m'apprendre que Mary est merveilleusement belle. Je le sais de reste, et depuis longtemps. » Il voulut s'éloigner, mais Jem posa sa main, lourde et calleuse, sur le bras du gentleman pour l'empêcher de partir. Celui-ci repoussa l'ouvrier avec hauteur, et, du gant qu'il tenait à la main, épousseta la manche de son pardessus gris clair pour en effacer la tache que les doigts du forgeron y avaient imprimée. Cette action exaspéra l'ouvrier. « Écoutez-moi donc, » s'écria-t-il, « et que vous sachiez enfin tout ce que j'ai à vous dire. Vous vous promenez avec Mary Burton. On vous a vu et l'on m'a dit que vous lui faisiez la cour. Celle qui m'en a parlé pense que Mary vous aime. C'est possible. Mais, que ce soit vrai ou non, je suis l'ami de son père, le plus ancien de ses amis à elle, et je désire savoir si vous avez franchement l'intention de l'épouser. Malgré tout ce que vous venez de me dire, moi qui la connais, je pus répondre qu'elle est digne de n'importe quel homme, si élevé qu'il puisse être. Je ne vous cache pas que je me fais son protecteur. Si votre intention est droite, vous ne m'en voudrez pas pour cela, mais je vous en avertis. Malheur à celui qui lui ferait le moindre tort, il se repentirait toute sa vie. Je ne vous dis que ça. Voilà tout ce que je vous demande. Voulez-vous, oui ou non, vous marier avec elle? Si vous n'y pensez pas, je vous le répète, dans votre intérêt comme dans le sien, et ne lui reparlez jamais. » Il attendit avec impatience la réponse du gentleman. Mais Mr. Carson, au lieu d'écouter ses paroles, cherchait à pénétrer les motifs qui pouvaient le faire agir. D'après ce qu'il avait cru entendre, le forgeron le supposait aimé par Mary. C'était la meilleure preuve que le pauvre garçon put lui donner du peu de succès qu'il avait eu lui-même, en supposant toutefois qu'il eût tenté de réussir. Car dans son égoïsme, Henry ne comprenait pas comment un homme qui eût aimé Mary eût pu s'intéresser aussi vivement au mariage de cette jeune fille avec lui. C'était probablement un ami que la belle avait pris pour complice afin de hâter l'union brillante que lui, Henry Carson, avait jadis proposée à la coquette, ce dont précisément il voulait s'assurer. « Avant de vous prendre pour confident, mon cher, répondit-il d'un ton méprisant aux paroles de l'ouvrier, trouvez bon que je m'informe à mon tour de quel droit vous vous mêlez de nos affaires. » Il ne reçut pas de réponse, et le silence de Jem le confirmant dans cette idée qu'on lui tendait un piège, il continua d'une voix émue par la colère. « Ainsi, mon brave, vous aurez l'obligeance de ne pas vous occuper davantage de ce qui ne vous regarde pas. Si vous étiez son père ou son frère, le cas serait différent. Mais dans l'état où sont les choses, vous n'êtes tout simplement qu'un intrigant ou un sot. » Et cette fois, il voulut passer outre, mais Jem se plaça résolument devant lui. « Si j'étais son père ou son frère, vous répondriez à ce que je vous demande, » lui dit-il d'une voix ferme. « Eh bien, ni son frère ni son père ne l'aimeraient comme je l'aime, et l'ai toujours aimé. Si l'amour donne le droit d'obtenir satisfaction, nul au monde n'a plus que moi celui de vous questionner. Répondez-moi donc, avez-vous, oui ou non, des intentions honorables envers Mary Burton? Je vous ai dit mon droit, et je jure Dieu que je saurai m'en servir. » Allons, allons, pas d'impudence, reprit Mr. Carson, qui connaissait maintenant tout ce qu'il voulait savoir. Père, frère, ou amant et conduit, je ne reconnais à personne le droit de se placer entre moi et ma maîtresse. Et croyez-le bien, à vous moins qu'un autre. Mais brisons-la, et retirez-vous que je passe. Vous ne me répondez pas relativement à Mary, murmura le pauvre Jem, grinçant des dents et livide de colère. Vous ne voulez pas partir? Il faut donc que je vous y force, dit en riant le beau jeune homme, qui, levant sa badine, en coupa le visage de l'ouvrier. Au même instant, il fut renversé dans la boue, et qui sait jusqu'où la fureur de Jem eût pu aller si un policeman, que le bruit de leur voix avait attiré de son côté, n'eût empoigné l'artisan, qui, dans sa surprise, n'opposa pas de résistance.
« Dois-je l'emmener en prison, monsieur ?»
demanda l'agent de police à Henry, qui s'était relevé immédiatement et dont le visage avait déjà repris tout son calme. « Non, pas !» s'écria le gentleman. « C'est moi qui l'ai frappé le premier. L'attaque ne vient pas de lui. Cependant, rappelez-vous, » dit-il en s'adressant à l'ouvrier, « que jamais je n'oublierai votre insulte et que Mary n'aura pas lieu de se féliciter de votre insolence. » « Prenez garde, » répondit Jem, « si vous osiez lui faire injure. Oh, mais je saurais bien vous attendre où personne ne viendrait nous séparer, et c'est Dieu seul qui serait juge entre nous. » Le policeman essaya d'intervenir et de calmer l'artisan qui l'entraîna du côté opposé à celui qu'avait pris Mr. Carson, mais Jem eut bientôt fait de se délivrer du policeman.
« Prenez garde à votre tour, mon brave garçon !» lui cria celui-ci. « Rappelez-vous qu'il n'y a pas de fille au monde qui vaille, que vous alliez pour elle ou cette affaire pourrait bien vous conduire. »
Mais Jem était déjà trop loin pour que ces paroles de l'agent arrivassent jusqu'à lui.